effet probable de l'action de la sélection naturelle par suite de la divergence des caractères et de l'extinction sur les descendants d'un ancêtre commun. Après la discussion qui précède, quelque résumée qu'elle soit, nous pouvons conclure que les descendants modifiés d'une espèce quelconque réussissent d'autant mieux que leur structure est plus diversifiée et qu'ils peuvent ainsi s'emparer de places occupées par d'autres êtres. Examinons maintenant comment ces avantages résultant de la divergence des caractères tendent à agir quand ils se combinent avec la sélection naturelle et l'extinction. Le diagramme ci-contre peut nous aider à comprendre ce sujet assez compliqué. Supposons que les lettres A à L représentent les espèces d'un genre riche dans le pays qu'il habite. Supposons en outre que ces espèces se ressemblent à des degrés inégaux, comme cela arrive ordinairement dans la nature. C'est ce qu'indiquent, dans le diagramme, les distances inégales qui séparent les lettres. J'ai dit un genre riche parce que, comme nous l'avons vu dans le second chapitre, plus d'espèces varient en moyenne dans un genre riche que dans un genre pauvre, et que les espèces variables des genres riches présentent un plus grand nombre de variétés. Nous avons vu aussi que les espèces les plus communes et les plus répandues varient plus que les espèces rares dont l'habitat est restreint. Supposons que A majuscule représente une espèce variable commune très répandue, appartenant à un genre riche dans son propre pays. Les lignes ponctuées divergentes de longueur inégale partant de A peuvent représenter ses descendants variables. On suppose que les variations sont très légères et de la nature la plus diverse, qu'elles ne paraissent pas toutes simultanément, mais souvent après de longs intervalles de temps, et qu'elles ne persistent pas non plus pendant des périodes égales. Les variations avantageuses seules persistent, ou en d'autres termes font l'objet de la sélection naturelle. C'est là que se manifeste l'importance du principe des avantages résultant de la divergence des caractères. Car ce principe détermine ordinairement les variations les plus divergentes et les plus différentes, représentées par les lignes ponctuées extérieures, que la sélection naturelle fixe et accumule. Quand une ligne ponctuée atteint une des lignes horizontales et que le point de contact est indiqué par une lettre minuscule, accompagnée d'un chiffre, on suppose qu'il s'est accumulé une quantité suffisante de variations pour former une variété bien tranchée, c'est-à-dire telle qu'on croirait devoir l'indiquer dans un ouvrage sur la zoologie systématique. Les intervalles entre les lignes horizontales du diagramme peuvent représenter chacun 1000 générations ou plus. Supposons qu'après 1000 générations, l'espèce A ait produit deux variétés bien tranchées, c'est-à-dire A1 et M1. Ces deux variétés se trouvent généralement encore placées dans des conditions analogues à celles qui ont déterminé des variations chez leurs ancêtres, d'autant que la variabilité en est elle-même héréditaire. En conséquence, elles tendent aussi à varier, et ordinairement de la même manière que leurs ancêtres. En outre, ces deux variétés, n'étant que des formes légèrement modifiées, tendent à hériter des avantages qui ont rendu leur prototype A plus nombreux que la plupart des autres habitants du même pays. Elles participent aussi aux avantages plus généraux qui ont rendu le genre auquel appartiennent leurs ancêtres un genre riche dans son propre pays. Or, toutes ces circonstances sont favorables à la production de nouvelles variétés. Si donc ces deux variétés sont variables, leurs variations les plus divergentes persisteront ordinairement pendant les 1000 générations suivantes. Après cet intervalle, on peut supposer que la variété A1 a produit la variété A2, laquelle, grâce au principe de la divergence, diffère plus de A majuscule que ne le faisait la variété A1. On peut supposer aussi que la variété M1 a produit, au bout du même laps de temps, deux variétés, M2 et S2, différant l'une de l'autre et différant plus encore de leur souche commune, A majuscule. Nous pourrions continuer à suivre ces variétés pas à pas pendant une période quelconque. Quelques variétés, après chaque série de 1000 générations, auront produit une seule variété, mais toujours plus modifiée. D'autres auront produit deux ou trois variétés. D'autres enfin n'en auront pas produit. Ainsi, les variétés ou les descendants modifiés de la souche commune A majuscule augmentent ordinairement en nombre en revêtant des caractères de plus en plus divergents. Le diagramme représente cette série jusqu'à la 10 000e génération et sous une forme condensée et simplifiée jusqu'à la 14 000e. Je ne prétends pas dire, bien entendu, que cette série soit aussi régulière qu'elle l'est dans le diagramme, bien qu'elle ait été représentée de façon assez irrégulière. Je ne prétends pas dire non plus que ces progrès soient incessants. Il est beaucoup plus probable, au contraire, que chaque forme persiste sans changement pendant de longues périodes, puis qu'elle est de nouveau soumise à des modifications. Je ne prétends pas dire non plus que les variétés les plus divergentes persistent toujours. Une forme moyenne peut persister pendant longtemps et peut, ou non, produire plus d'un descendant modifié. La sélection naturelle, en effet, agit toujours en raison des places vacantes ou de celles qui ne sont pas parfaitement occupées par d'autres êtres, et cela implique des rapports infiniment complexes. Mais en règle générale, plus les descendants d'une espèce quelconque se modifient sous le rapport de la conformation, plus ils ont de chances de s'emparer de place, et plus leur descendance modifiée tend à augmenter. Dans notre diagramme, la ligne de descendance est interrompue à des intervalles réguliers par des lettres minuscules chiffrées, indiquant les formes successives qui sont devenues suffisamment distinctes pour qu'on les reconnaisse comme variétés. Il va sans dire que ces points sont imaginaires et qu'on aurait pu les placer n'importe où en laissant des intervalles assez longs pour permettre l'accumulation d'une somme considérable de variations divergentes. Comme tous les descendants modifiés d'une espèce commune et très répandue, appartenant à un genre riche, tentent à participer aux avantages qui ont donné à leurs ancêtres la prépondérance dans la lutte pour l'existence, ils se multiplient ordinairement en nombre, en même temps que leurs caractères deviennent plus divergents. Ce fait est représenté dans le diagramme par les différentes branches divergentes partant de A majuscule. Les descendants modifiés des branches les plus récentes et les plus perfectionnées tendent à prendre la place des branches plus anciennes et moins perfectionnées, et par conséquent à les éliminer. Les branches inférieures du diagramme, qui ne parviennent pas jusqu'aux lignes horizontales supérieures, indiquent ce fait. Dans quelques cas, sans doute, les modifications portent sur une seule ligne de descendance, et le nombre des descendants modifiés ne s'accroît pas, bien que la somme des modifications divergentes ait pu augmenter. Ce cas serait représenté dans le diagramme si toutes les lignes partant de A majuscule étaient enlevées, à l'exception de celles allant de A1 à A10. Le cheval de course anglais et le limier anglais ont évidemment divergé lentement de leur source primitive de la façon que nous venons d'indiquer, sans qu'aucun d'eux ait produit des branches ou des races nouvelles. Supposons que, après 10 000 générations, l'espèce A majuscule ait produit 3 formes. A10, F10 et M10, qui, ayant divergé en caractère pendant les générations successives, en sont arrivés à différer largement, mais peut-être inégalement les unes des autres et de leurs souches communes. Si nous supposons que la somme des changements entre chaque ligne horizontale du diagramme soit excessivement minime, ces 3 formes ne seront encore que des variétés bien tranchées. Mais nous n'avons qu'à supposer un plus grand nombre de générations ou une modification un peu plus considérable à chaque degré pour convertir ces 3 formes en espèces douteuses, ou même en espèces bien définies. Le diagramme indique donc les degrés au moyen desquels les petites différences séparant les variétés s'accumulent au point de former les grandes différences séparant les espèces. En continuant la même marche d'un plus grand nombre de générations, ce qu'indique le diagramme sous une forme condensée et simplifiée, nous obtenons 8 espèces, A14 à M14, descendant toutes de A majuscule. C'est ainsi, je crois, que les espèces se multiplient et que les genres se forment. Il est probable que dans un genre riche, plus d'une espèce doit varier. J'ai supposé dans le diagramme qu'une seconde espèce la produit par une marche analogue après 10 000 générations, soit 2 variétés bien tranchées. W10 et Z10, soit 2 espèces selon la somme de changements que représentent les lignes horizontales. Après 14 000 générations, on suppose que 6 nouvelles espèces, N14 à Z14, ont été produites. Dans un genre quelconque, les espèces qui diffèrent déjà beaucoup les unes des autres tendent ordinairement à produire le plus grand nombre de descendants modifiés, car ce sont elles qui ont le plus de chances de s'emparer de places nouvelles et très différentes dans l'économie de la nature. Aussi ai-je choisi dans le diagramme l'espèce extrême A majuscule et une autre espèce presque extrême I majuscule comme celles qui ont beaucoup varié et qui ont produit de nouvelles variétés de nouvelles espèces. Les autres 9 espèces de notre genre primitif, indiquées par des lettres majuscules, peuvent continuer, pendant des périodes plus ou moins longues, à transmettre à leurs descendants leur caractère non modifié. Ceci est indiqué dans le diagramme par les lignes ponctuées qui se prolongent plus ou moins loin. Mais, pendant la marche des modifications représentées dans le diagramme, un autre de nos principes, celui de l'extinction, a dû jouer un rôle important. Comme dans chaque pays bien pourvu d'habitants, la sélection naturelle agit nécessairement en donnant à une forme qui fait l'objet de son action quelques avantages sur d'autres formes dans la lutte pour l'existence, il se produit une tendance constante chez les descendants perfectionnés d'une espèce quelconque à supplanter et à exterminer, à chaque génération, leurs prédécesseurs et leurs souches primitives. Il faut se rappeler, en effet, que la lutte la plus vive se produit ordinairement entre les formes qui sont les plus voisines les unes des autres sous le rapport des habitudes, de la constitution et de la structure. En conséquence, toutes les formes intermédiaires entre la forme la plus ancienne et la forme la plus nouvelle, c'est-à-dire entre les formes plus ou moins perfectionnées de la même espèce, aussi bien que l'espèce souche elle-même, tendent ordinairement à s'éteindre. Il en est probablement de même pour beaucoup de lignes collatérales tout entières, vaincues par des formes plus récentes et plus perfectionnées. Si, cependant, le descendant modifié d'une espèce pénètre dans quelques régions distinctes, ou s'adapte rapidement à quelques régions tout à fait nouvelles, il ne se trouve pas en concurrence avec le type primitif, et tous deux peuvent continuer à exister. Si donc on suppose que notre diagramme représente une somme considérable de modifications, l'espèce A majuscule et toutes les premières variétés qu'elle a produites auront été éliminées et remplacées par 8 nouvelles espèces, A14 à M14, et l'espèce I majuscule par 6 nouvelles espèces, N14 à Z14. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Nous avons supposé que les espèces primitives du genre dont nous nous occupons se ressemblent les unes aux autres à des degrés inégaux. C'est là ce qui se présente souvent dans la nature. L'espèce A majuscule est donc plus voisine des espèces B majuscule, C majuscule, D majuscule que des autres espèces. Et l'espèce I majuscule est plus voisine des espèces G majuscule, H majuscule, K majuscule, L majuscule que des premières. Nous avons supposé aussi que ces deux espèces, A majuscule et I majuscule, sont très communes et très répandues, de telle sorte qu'elles devaient, dans le principe, posséder quelques avantages sur la plupart des autres espèces appartenant au même genre. Les espèces représentatives au nombre de 14 à la 14e génération ont probablement hérité de quelques-uns de ces avantages. Elles se sont, en outre, modifiées, perfectionnées de diverses manières à chaque génération successive, de façon à se mieux adapter aux nombreuses places vacantes dans l'économie naturelle du pays qu'elles habitent. Il est donc très probable qu'elles ont exterminé pour les remplacer non seulement les représentants non modifiés des souches mères A majuscule et I majuscule, mais aussi quelques-unes des espèces primitives et les plus voisines de ces souches. En conséquence, il doit rester à la 14e génération très peu de descendants des espèces primitives. Nous pouvons supposer qu'une espèce seulement, l'espèce F majuscule, sur les deux espèces E majuscule et F majuscule, les moins voisines des deux espèces primitives A majuscule, I majuscule, a pu avoir des descendants jusqu'à cette dernière génération. Ainsi que l'indique notre diagramme, les 11 espèces primitives sont désormais représentées par 15 espèces. En raison de la tendance divergence de la sélection naturelle, la somme de différence des caractères entre les espèces A14 et Z14 doit être beaucoup plus considérable que la différence qui existait entre les individus les plus distincts des 11 espèces primitives. Les nouvelles espèces, en outre, sont alliées les unes aux autres d'une manière toute différente. Sur les 8 descendants de A majuscule, ceux indiqués par les lettres A14, G14 et P14 sont très voisins, parce que ce sont des branches récentes de A10. B14 et F14, ayant divergé à une période beaucoup plus ancienne de A5, sont dans une certaine mesure distincts de ces 3 premières espèces. Et enfin, O14, C14 et M14 sont très voisines les uns des autres. Mais comme elles ont divergé de A majuscule, au commencement même de cette série de modifications, ces espèces doivent être assez différentes des 5 autres pour constituer sans doute un sous-genre ou un genre distinct. Les 6 descendants de I majuscule forment 2 sous-genres ou 2 genres distincts. Mais comme l'espèce primitive I majuscule différait beaucoup de A majuscule, car elle se trouvait presque à l'autre extrémité du genre primitif, les 6 espèces descendant de I majuscule, grâce à l'hérédité seule, doivent différer considérablement des 8 espèces descendant de A majuscule. En outre, nous avons supposé que les deux groupes ont continué à diverger dans des directions différentes. Les espèces intermédiaires, et c'est là une considération fort importante, qui reliait les espèces originelles A majuscule et I majuscule, se sont toutes éteintes, à l'exception de F majuscule, qui seule a laissé des descendants. En conséquence, les 6 nouvelles espèces descendant de I majuscule et les 8 espèces descendant de A majuscule devront être classées comme des genres très distincts ou même comme des sous-familles distinctes. C'est ainsi, je crois, que deux ou plusieurs genres descendent par suite de modifications de deux ou de plusieurs espèces d'un même genre. Ces deux ou plusieurs espèces souches descendent aussi, à leur tour, de quelque espèce d'un genre antérieur. Cela est indiqué dans notre diagramme par les lignes ponctuées placées au-dessous des lettres majuscules, lignes convergentes en groupe vers un seul point. Ce point représente une espèce, l'ancêtre supposé de nos sous-genres et de nos genres. Il est utile de s'arrêter un instant pour considérer le caractère de la nouvelle espèce F14 majuscule, laquelle, avons-nous supposé, n'a plus beaucoup divergé, mais a conservé la forme de F majuscule, soit avec quelques légères modifications, soit sans aucun changement. Les affinités de cette espèce, vis-à-vis des 14 autres espèces nouvelles, doivent être nécessairement très curieuses. Descendue d'une forme située à peu près à égale distance entre les espèces souches A majuscule et I majuscule, que nous supposons éteintes et inconnues, elle doit présenter, dans une certaine mesure, un caractère intermédiaire entre celui des deux groupes descendus de cette même espèce. Mais, comme le caractère de ces deux groupes s'est continuellement écarté du type souche, la nouvelle espèce F14 majuscule ne constitue pas un intermédiaire immédiat entre eux. Elle constitue plutôt un intermédiaire entre les types des deux groupes. Or, chaque naturaliste peut se rappeler, sans doute, des cas analogues. Nous avons supposé jusqu'à présent que chaque ligne horizontale du diagramme représente 1000 générations. Mais chacune d'elles pourrait représenter 1 million de générations ou même davantage. Chacune pourrait même représenter une des souches successives de la croûte terrestre dans laquelle on trouve des fossiles. Nous aurons à revenir sur ce point dans notre chapitre sur la géologie, et nous verrons alors, je crois, que le diagramme jette quelques lumières sur les affinités des êtres éteints. Ces êtres, bien qu'appartenant ordinairement aux mêmes ordres, aux mêmes familles ou aux mêmes genres que ceux qui existent aujourd'hui, présentent souvent cependant, dans une certaine mesure, des caractères intermédiaires entre les groupes actuels. Nous pouvons le comprendre d'autant mieux que les espèces existantes vivaient à différentes époques reculées, alors que les lignes de descendance avaient moins divergé. Je ne vois aucune raison qui oblige à limiter à la formation des genres seuls la série de modifications que nous venons d'indiquer. Si nous supposons que, dans le diagramme, la somme des changements représentés par chaque groupe successif de lignes ponctuées divergentes est très grande, les formes A14 à P14, B14 et F14, O14 à M14 formeront 3 genres bien distincts. Nous aurons aussi 2 genres très distincts, descendants de I majuscule et différents très considérablement des descendants de A majuscule. Ces deux groupes de genres formeront ainsi 2 familles ou 2 ordres distincts, selon la somme des modifications divergentes que l'on suppose représentées par le diagramme. Or, les 2 nouvelles familles, ou les 2 ordres nouveaux, descendent de 2 espèces appartenant à un même genre primitif, et on peut supposer que ces espèces descendent de formes encore plus anciennes et plus inconnues. Nous avons vu que dans chaque pays, ce sont les espèces appartenant aux genres les plus riches qui présentent le plus souvent des variétés ou des espèces naissantes. On aurait pu s'y attendre. En effet, la sélection naturelle agissant seulement sur les individus ou les formes qui, grâce à certaines qualités, l'emportent sur d'autres dans la lutte pour l'existence, elle exerce principalement son action sur ceux qui possèdent déjà certains avantages. Or, l'étendue d'un groupe quelconque prouve que les espèces qui le composent ont hérité de quelques qualités possédées par un ancêtre commun. Aussi, la lutte pour la production de descendants nouveaux et modifiés s'établit principalement entre les groupes les plus riches qui essaient de tous se multiplier. Un groupe riche l'emporte lentement sur un autre groupe considérable, le réduit en nombre et diminue ainsi ses chances de variation et de perfectionnement. Dans un même groupe considérable, les sous-groupes les plus récents et les plus perfectionnés, augmentant sans cesse, s'emparant à chaque instant de nouvelles places dans l'économie de la nature, tendent constamment aussi à supplanter et à détruire les sous-groupes les plus anciens et les moins perfectionnés. Enfin, les groupes et les sous-groupes peu nombreux et vaincus finissent par disparaître. Si nous portons les yeux sur l'avenir, nous pouvons prédire que les groupes d'êtres organisés qui sont aujourd'hui riches et dominants, qui ne sont pas encore entamés, c'est-à-dire qui n'ont pas souffert encore la moindre extinction, doivent continuer à augmenter en nombre pendant de longues périodes. Mais quels groupes finiront par prévaloir? C'est là ce que personne ne peut prévoir, car nous savons que beaucoup de groupes, autrefois très développés, sont aujourd'hui éteints. Si l'on s'occupe d'un avenir encore plus éloigné, on peut prédire que, grâce à l'augmentation continue et régulière des plus grands groupes, une foule de petits groupes doivent disparaître complètement sans laisser de descendants modifiés. Et qu'en conséquence, bien peu d'espèces vivant à une époque quelconque doivent avoir des descendants après un laps de temps considérable. J'aurai à revenir sur ce point dans le chapitre sur la classification. Mais je puis ajouter que, selon notre théorie, fort peu d'espèces très anciennes doivent avoir des représentants à l'époque actuelle. Or, comme tous les descendants de la même espèce forment une classe, il est facile de comprendre comment il se fait qu'il y ait si peu de classes dans chaque division principale du royaume animal et du royaume végétal. Bien que peu des espèces les plus anciennes aient laissé des descendants modifiés, cependant, à d'anciennes périodes géologiques, la Terre a pu être presque aussi peuplée qu'elle l'est aujourd'hui d'espèces appartenant à beaucoup de genres, de familles, d'ordres et de classes. Du progrès possible de l'organisation. La sélection naturelle agit exclusivement au moyen de la conservation et de l'accumulation des variations qui sont utiles à chaque individu dans les conditions organiques et inorganiques où il peut se trouver placé à toutes les périodes de la vie. Chaque être, et c'est là le but final du progrès, tend à se perfectionner de plus en plus relativement à ses conditions. Ce perfectionnement conduit inévitablement au progrès graduel de l'organisation du plus grand nombre des êtres vivants dans le monde entier. Mais nous abordons ici un sujet fort compliqué, car les naturalistes n'ont pas encore défini d'une façon satisfaisante pour tous ce que l'on doit entendre par un progrès de l'organisation. Pour les vertébrés, il s'agit clairement d'un progrès intellectuel et d'une conformation se rapprochant de celle de l'homme. On pourrait penser que la somme des changements qui se produisent dans les différentes parties et dans les différents organes, au moyen de développements successifs depuis l'embryon jusqu'à la maturité, suffit comme terme de comparaison. Mais il y a des cas, certains crustacés parasites, par exemple, chez lesquels plusieurs parties de la conformation deviennent moins parfaites, de telle sorte que l'animal adulte n'est certainement pas supérieur à la larve. Le critérium de von Baer semble le plus généralement applicable et le meilleur, c'est-à-dire l'étendue de la différenciation des parties du même être et la spécialisation de ces parties pour différentes fonctions, ce à quoi j'ajouterai à l'état adulte, ou, comme le dirait Maine Edwards, le perfectionnement de la division du travail physiologique. Mais nous comprendrons bien vite quelle obscurité règne sur ce sujet si nous étudions par exemple les poissons. En effet, certains naturalistes regardent comme les plus élevés dans l'échelle ceux qui, comme le requin, se rapprochent le plus des amphibies, tandis que d'autres naturalistes considèrent comme les plus élevés les poissons osseux ou téléostéens parce qu'ils sont plus réellement pisciformes et diffèrent le plus des autres classes des vertébrés. L'obscurité du sujet nous frappe plus encore si nous étudions les plantes pour lesquelles, bien entendu, le critérium de l'intelligence n'existe pas. En effet, quelques botanistes rangent parmi les plantes les plus élevées celles qui présentent sur chaque fleur, à l'état complet de développement, tous les organes tels que sépales, pétales, étamines et pistils. Tandis que d'autres botanistes, avec plus de raison probablement, accordent le premier rang aux plantes dont les divers organes sont très modifiés et en nombre réduit. Si nous adoptons comme critérium d'une haute organisation la somme de différenciation et de spécialisation des divers organes chez chaque individu adulte, ce qui comprend le perfectionnement intellectuel du cerveau, la sélection naturelle conduit clairement à ce but. Tous les physiologistes, en effet, admettent que la spécialisation des organes est un avantage pour l'individu, en ce sens que, dans cet état, les organes accomplissent mieux leurs fonctions. En conséquence, l'accumulation des variations tendant à la spécialisation, cette accumulation entre dans le ressort de la sélection naturelle. D'un autre côté, si l'on se rappelle que tous les êtres organisés tendent à se multiplier rapidement et à s'emparer de toutes les places inoccupées ou moins bien occupées dans l'économie de la nature, il est facile de comprendre qu'il est très possible que la sélection naturelle prépare graduellement un individu pour une situation dans laquelle plusieurs organes lui seraient superflus ou inutiles. Dans ce cas, il y aurait une rétrogradation réelle dans l'échelle de l'organisation. Nous discuterons avec plus de profit dans le chapitre sur la succession géologique la question de savoir si, en règle générale, l'organisation a fait des progrès certains depuis les périodes géologiques les plus reculées jusqu'à nos jours. Mais pourra-t-on dire, si tous les êtres organisés tendent ainsi à s'élever dans l'échelle, comment se fait-il qu'une foule de formes inférieures existe encore dans le monde ? Comment se fait-il qu'il y ait dans chaque grande classe des formes beaucoup plus développées que certaines autres ? Pourquoi les formes les plus perfectionnées n'ont-elles pas partout supplanté et exterminé les formes inférieures ? Lamarck, qui croyait à une tendance innée et fatale de tous les êtres organisés vers la perfection, semble avoir si bien pressenti cette difficulté qu'il a été conduit à supposer que des formes simples et nouvelles sont constamment produites par la génération spontanée. La science n'a pas encore prouvé le bien fondé de cette doctrine, quoi qu'elle puisse d'ailleurs nous révéler dans l'avenir. Dans notre théorie, l'existence persistante des organismes inférieurs n'offre aucune difficulté. En effet, la sélection naturelle ou la persistance du plus apte ne comporte pas nécessairement un développement progressif. Elle s'empare seulement des variations qui se présentent et qui sont utiles à chaque individu dans les rapports complexes de son existence. Et, pourrait-on dire, quel avantage y aurait-il, autant que nous pouvons en juger, pour un animalcule infusoire, pour un ver intestinal ou même pour un ver de terre, à acquérir une organisation supérieure ? Si cet avantage n'existe pas, la sélection naturelle n'améliore que fort peu ses formes et elle les laisse, pendant des périodes infinies, dans leurs conditions inférieures actuelles. Or, la géologie nous enseigne que quelques formes très inférieures, comme les infusoires et les rhizopodes, ont conservé leur état actuel depuis une période immense. Mais il serait bien téméraire de supposer que la plupart des nombreuses formes inférieures existant aujourd'hui n'ont fait aucun progrès depuis l'apparition de la vie sur la Terre. En effet, tous les naturalistes qui ont disséqué quelques-uns de ces êtres, qu'on est d'accord pour placer au plus bas de l'échelle, doivent avoir été frappés de leur organisation si étonnante et si belle. Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aussi, si nous examinons les mêmes degrés d'organisation, dans chacun des grands groupes. Par exemple, la coexistence des mammifères et des poissons chez les vertébrés, celle de l'homme et de l'ornithorynque chez les mammifères, celle du requin et du branchiostome, Amphioxus, chez les poissons. Ce dernier poisson, par l'extrême simplicité de sa conformation, se rapproche beaucoup des invertébrés. Mais les mammifères et les poissons n'entrent guère en lutte les uns avec les autres. Les progrès de la classe entière des mammifères ou de certains individus de cette classe, en admettant même que ces progrès les conduisent à la perfection, ne les amèneraient pas à prendre la place des poissons. Les physiologistes croient que, pour acquérir toute l'activité dont il est susceptible, le cerveau doit être baigné de sang chaud, ce qui exige une respiration aérienne. Les mammifères à sang chaud se trouvent donc placés dans une position fort désavantageuse quand ils habitent l'eau. En effet, ils sont obligés de remonter continuellement à la surface pour respirer. Chez les poissons, les membres de la famille du requin ne tentent pas à supplanter le branchiostome, car ce dernier, d'après Fritz Müller, a pour seul compagnon et pour seul concurrent, sur les côtes sablonneuses et stériles du Brésil méridional, un annélide anormal. Les trois ordres inférieurs de mammifères, c'est-à-dire les marsupiaux, les édentés et les rongeurs, habitent, dans l'Amérique méridionale, la même région que de nombreuses espèces de singes, et probablement, ils s'inquiètent fort peu les uns des autres. Bien que l'organisation ait pu, en somme, progresser, et qu'elle progresse encore dans le monde entier, il y aura cependant toujours bien des degrés de perfection. En effet, le perfectionnement de certaines classes entières ou de certains individus de chaque classe ne conduit pas nécessairement à l'extinction des groupes avec lesquels ils ne se trouvent pas en concurrence active. Dans quelques cas, comme nous le verrons bientôt, les organismes inférieurs paraissent avoir persisté jusqu'à l'époque actuelle parce qu'ils habitent des régions restreintes et fermées, où ils ont été soumis à une concurrence moins active et où leur petit nombre a retardé la production de variations favorables. Enfin, je crois que beaucoup d'organismes inférieurs existent encore dans le monde en raison de causes diverses. Dans quelques cas, des variations ou des différences individuelles d'une nature avantageuse ne se sont jamais présentées, et par conséquent, la sélection naturelle n'a pu ni agir ni les accumuler. Dans aucun cas, probablement, il ne s'est pas assez écoulé de temps pour permettre tout le développement possible. Dans quelques cas, il doit y avoir eu ce que nous devons désigner sous le nom de rétrogradation d'organisation. Mais la cause principale réside dans ce fait que, étant donné de très simples conditions d'existence, une haute organisation serait inutile, peut-être même désavantageuse, en ce qu'étant d'une nature plus délicate, elle se dérangerait plus facilement et serait aussi plus facilement détruite. On s'est demandé comment, lors de la première apparition de la vie, alors que tous les êtres organisés, pouvons-nous croire, présentaient la conformation la plus simple, les premiers degrés du progrès ou de la différenciation des parties ont pu se produire. M. Herbert Spencer répondrait probablement que, dès qu'un organisme unicellulaire simple est devenu, par la croissance ou par la division, un composé de plusieurs cellules, ou qu'il s'est fixé à quelque surface d'appui, la loi qu'il a établie est entrée en action. Et il exprime ainsi cette loi. Les unités homologues de toute force se différencient à mesure que leurs rapports avec les forces incidentes sont différents. Mais comme nous ne connaissons aucun fait qui puisse nous servir de point de comparaison, toute spéculation sur ce sujet serait presque inutile. Et c'est toutefois une erreur de supposer qu'il n'y a pas eu lutte pour l'existence, et par conséquent pas de sélection naturelle jusqu'à ce que beaucoup de formes se soient produites. Il peut se produire des variations avantageuses dans une seule espèce habitant une station isolée, et toute la masse des individus peut aussi, en conséquence, se modifier, et deux formes distinctes se produire. Mais comme je l'ai fait remarquer à la fin de l'introduction, personne ne doit s'étonner de ce qu'il reste encore tant de points inexpliqués sur l'origine des espèces si l'on réfléchit à la profonde ignorance dans laquelle nous sommes sur les rapports mutuels des habitants du monde à notre époque, et bien plus encore pendant les périodes écoulées. Convergence des caractères. M. H. C. Watson pense que j'ai attribué trop d'importance à la divergence des caractères, dont il paraît d'ailleurs admettre l'importance, et que ce qu'on peut appeler leur convergence a dû également jouer un rôle. Si deux espèces appartenant à deux genres distincts, quoique voisins, ont toutes deux produit un grand nombre de formes nouvelles et divergentes, il est concevable que ces formes puissent assez se rapprocher les unes des autres pour qu'on doive placer toutes les classes dans le même genre. En conséquence, les descendants de deux genres distincts convergeraient en un seul. Mais dans la plupart des cas, il serait bien téméraire d'attribuer à la convergence une analogie étroite et générale de conformation chez les descendants modifiés de formes très distinctes. Les forces moléculaires déterminent seules la forme d'un cristal. Il n'est donc pas surprenant que des substances différentes puissent parfois revêtir la même forme. Mais nous devons nous souvenir que, chez les êtres organisés, la forme de chacun d'eux dépend d'une infinité de rapports complexes, à savoir les variations qui se sont manifestées dues à des causes trop inexplicables pour qu'on puisse les analyser. La nature des variations qui ont persisté ou qui ont fait l'objet de la sélection naturelle, lesquelles dépendent des conditions physiques ambiantes et, dans de plus grandes mesures encore, des organismes environnants avec lesquels chaque individu est entré en concurrence. Et enfin, l'hérédité, élément fluctuant en soi, d'innombrables ancêtres dont les formes ont été déterminées par des rapports également complexes. Et il serait donc incroyable que les descendants de deux organismes qui, dans l'origine, différaient d'une façon prononcée, aient jamais convergé ensuite d'assez près pour que leur organisation totale s'approche de l'identité. Et si cela était, nous retrouverions la même forme, indépendamment de toute connexion génésique, dans des formations géologiques très séparées. Or, l'étude des faits observés s'oppose à une semblable conséquence. M. Watson objecte aussi que l'action continue de la sélection naturelle, accompagnée de la divergence des caractères, tendrait à la production d'un nombre infini de formes spécifiques. Il semble probable, en ce qui concerne tout au moins les conditions physiques, qu'un nombre suffisant d'espèces s'adapterait bientôt à toutes les différences de chaleur, d'humidité, etc., quelque considérables que soient ces différences. Mais j'admets complètement que les rapports réciproques des êtres organisés sont plus importants. Or, à mesure que le nombre des espèces s'accroît dans un pays quelconque, les conditions organiques de la vie doivent devenir de plus en plus complexes. En conséquence, il ne semble y avoir à première vue aucune limite à la quantité des différences avantageuses de structure et, par conséquent aussi, au nombre des espèces qui pourraient être produites. Nous ne savons même pas si les régions les plus riches possèdent leur maximum de formes spécifiques. Au Cap de Bonne-Espérance et en Australie, où vivent déjà un nombre si étonnant d'espèces, beaucoup de plantes européennes se sont acclimatées. Mais la géologie nous démontre que, depuis une époque fort ancienne de la période tertiaire, le nombre des espèces de coquillages et, depuis le milieu de cette même période, le nombre des espèces de mammifères n'ont pas beaucoup augmenté, en admettant même qu'ils aient augmenté un peu. Quel est donc le frein qui s'oppose à une augmentation indéfinie du nombre des espèces? La quantité des individus, je n'entends pas dire le nombre des formes spécifiques, pouvant vivre dans une région doit avoir une limite, car cette quantité dépend en grande mesure des conditions extérieures. Par conséquent, si beaucoup d'espèces habitent une même région, chacune de ces espèces, presque toutes certainement, ne doivent être représentées que par un petit nombre d'individus. En outre, ces espèces sont sujettes à disparaître en raison de changements accidentels survenus dans la nature des saisons ou dans le nombre de leurs ennemis. Dans de semblables cas, l'extermination est rapide, alors qu'au contraire, la production de nouvelles espèces est toujours fort lente. Supposons comme cas extrême qu'il y ait en Angleterre autant d'espèces que d'individus. Le premier hiver rigoureux, ou un été très sec, causerait l'extermination de milliers d'espèces. Les espèces rares, et chaque espèce deviendrait rare si le nombre des espèces d'un pays s'accroissait indéfiniment, présentent, nous avons expliqué en vertu de quel principe, peu de variations avantageuses dans un champ donné. En conséquence, la production de nouvelles formes spécifiques serait considérablement retardée. Quand une espèce devient rare, les croisements consanguins contribuent à hâter son extinction. Quelques auteurs ont pensé qu'il fallait en grande partie attribuer à ce fait la disparition de l'auroch en Lituanie, du cerf en Corse et de l'ours en Norvège, etc. Enfin, et je suis disposé à croire que c'est là l'élément le plus important, une espèce dominante, ayant déjà vécu plusieurs concurrents dans son propre habitat, tend à s'étendre et à en supplanter beaucoup d'autres. Alphonse de Candolle a démontré que les espèces qui se répandent beaucoup tendent ordinairement à se répandre de plus en plus. En conséquence, ces espèces tendent à supplanter et à exterminer plusieurs espèces dans plusieurs régions, et à arrêter ainsi l'augmentation désordonnée des formes spécifiques sur le globe. Le docteur Hooker a démontré récemment qu'à l'extrémité sud-est de l'Australie, qui paraît avoir été envahie par de nombreux individus venant de différentes parties du globe, les différentes espèces australiennes indigènes ont considérablement diminué en nombre. Je ne prétends pas déterminer quel poids il convient d'attacher à ces diverses considérations, mais ces différentes causes réunies doivent limiter dans chaque pays la tendance à un accroissement indéfini du nombre des formes spécifiques. Résumé du chapitre. Si au milieu des conditions changeantes de l'existence, les êtres organisés présentent des différences individuelles dans presque toutes les parties de leur structure, et ce point n'est pas contestable, s'il se produit, entre les espèces, en raison de la progression géométrique de l'augmentation des individus, une lutte sérieuse pour l'existence à un certain âge, à une certaine saison, ou pendant une période quelconque de leur vie, et ce point n'est certainement pas contestable, alors, en tenant compte de l'infinie complexité des rapports mutuels de tous les êtres organisés et de leur rapport avec les conditions de leur existence, ce qui cause une diversité infinie et avantageuse des structures, des conditions et des habitudes, il serait très extraordinaire qu'il ne se soit jamais produit des variations utiles à la prospérité de chaque individu de la même façon qu'il s'est produit tant de variations utiles à l'homme. Mais si ces variations utiles à un être organisé quelconque se présentent quelquefois, assurément, les individus qui en sont l'objet ont la meilleure chance de l'emporter dans la lutte pour l'existence. Puis, en vertu du principe si puissant de l'hérédité, ces individus tendent à laisser des descendants ayant le même caractère qu'eux. J'ai donné le nom de « sélection naturelle » à ce principe de conservation ou de persistance du plus apte. Ce principe conduit au perfectionnement de chaque créature, relativement aux conditions organiques et inorganiques de son existence, et en conséquence, dans la plupart des cas, à ce que l'on peut regarder comme un progrès de l'organisation. Néanmoins, les formes simples et inférieures persistent longtemps lorsqu'elles sont bien adaptées aux conditions peu complexes de leur existence. En vertu du principe de l'hérédité des caractères aux âges correspondants, la sélection naturelle peut agir sur l'œuf, sur la graine ou sur le jeune individu, et les modifier aussi facilement qu'elle peut modifier l'adulte. Chez un grand nombre d'animaux, la sélection sexuelle vient en aide à la sélection ordinaire, en assurant aux mâles les plus vigoureux et les mieux adaptés le plus grand nombre de descendants. La sélection sexuelle développe aussi chez les mâles des caractères qui leur sont utiles dans leur rivalité ou dans leur lutte avec d'autres mâles. Caractères qui peuvent se transmettre à un sexe seul ou aux deux sexes, suivant la forme d'hérédité prédominante chez l'espèce. La sélection naturelle a-t-elle réellement joué ce rôle? A-t-elle réellement adapté les formes diverses de la vie à leurs conditions et à leurs stations différentes? C'est en pesant les faits exposés dans les chapitres suivants que nous pourrons en juger. Mais nous avons déjà vu comment la sélection naturelle détermine l'extinction. Or, l'histoire et la géologie nous démontrent clairement quel rôle l'extinction a joué dans l'histoire zoologique du monde. La sélection naturelle conduit aussi à la divergence des caractères, car plus les êtres organisés diffèrent les uns les autres sous le rapport de la structure, des habitudes et de la constitution, plus la même région peut en nourrir un grand nombre. Nous en avons eu la preuve en étudiant les habitants d'une petite région et les productions acclimatées. Par conséquent, pendant la modification des descendants d'une espèce quelconque, pendant la lutte incessante de toutes les espèces pour s'accroître en nombre, plus ces descendants deviennent différents, plus ils ont des chances de réussir dans la lutte pour l'existence. Aussi, les petites différences qui distinguent les variétés d'une même espèce tendent régulièrement à s'accroître jusqu'à ce qu'elles deviennent égales aux grandes différences qui existent entre les espèces d'un même genre ou même entre des genres distincts. Nous avons vu que ce sont les espèces communes très répandues et ayant un habitat considérable et qui en outre appartiennent aux genres les plus riches de chaque classe qui varient le plus, et que ces espèces tentent à transmettre à leurs descendants modifiés cette supériorité qui leur assure aujourd'hui la domination dans leur propre pays. La sélection naturelle, comme nous venons de le faire remarquer, conduit à la divergence des caractères et à l'extinction complète des formes intermédiaires et moins perfectionnées. En partant de ces principes, on peut expliquer la nature des affinités et les distinctions ordinairement bien définies qui existent entre les innombrables êtres organisés de chaque classe à la surface du globe. Un fait véritablement étonnant est que nous méconnaissons trop, parce que nous sommes peut-être trop familiarisés avec lui, c'est que tous les animaux et toutes les plantes, tant dans le temps que dans l'espace, se trouvent réunis par groupes subordonnés à d'autres groupes d'une même manière que nous remarquons partout. C'est-à-dire que les variétés d'une même espèce les plus voisines les unes des autres et que les espèces d'un même genre moins étroitement et plus inégalement alliées forment des sections et des sous-genres. Que les espèces de genres distincts encore beaucoup moins proches et enfin que les genres plus ou moins semblables forment des sous-familles, des familles, des ordres, des sous-classes et des classes. Les divers groupes subordonnés d'une classe quelconque ne peuvent pas être rangés sur une seule ligne, mais semblent se grouper autour de certains points, ceux-là autour d'autres, et ainsi de suite en cercle presque infini. Si les espèces avaient été créées indépendamment les unes des autres, on aurait pu expliquer cette sorte de classification. Elle s'explique facilement, au contraire, par l'hérédité, par l'action complexe de la sélection naturelle, produisant l'extinction et la divergence des caractères, ainsi que le démontre notre diagramme. On a quelquefois représenté sous la figure d'un grand arbre les affinités de tous les êtres de la même classe, et je crois que cette image est très juste sous bien des rapports. Les rameaux et les bourgeons représentent les espèces existantes. Les branches produites pendant les années précédentes représentent la longue succession des espèces éteintes. À chaque période de croissance, tous les rameaux essaient de pousser des branches de toutes parts, de dépasser et de tuer les rameaux et les branches environnantes, de la même façon que les espèces et les groupes d'espèces ont, dans tous les temps, vaincu d'autres espèces dans la grande lutte pour l'existence. Les bifurcations du tronc, divisées en grosses branches, et celles-ci en branches moins grosses et plus nombreuses, n'étaient autrefois, alors que l'arbre était jeune, que des petits rameaux bourgeonnants. Or, cette relation entre les anciens bourgeons et les nouveaux, au moyen des branches ramifiées, représente bien la classification de toutes les espèces éteintes et vivantes en groupes subordonnés à d'autres groupes. Sur les nombreux rameaux qui prospéraient alors que l'arbre n'était qu'un arbrisseau, deux ou trois seulement, transformés aujourd'hui en grosses branches, ont survécu et portent les ramifications subséquentes. De même, sur les nombreuses espèces qui vivaient pendant les périodes géologiques écoulées depuis si longtemps, bien peu ont laissé des descendants vivants et modifiés. Dès la première croissance de l'arbre, plus d'une branche a dû périr et tomber. Or, ces branches tombées, de grosseurs différentes, peuvent représenter les ordres, les familles et les genres tout entiers, qui n'ont plus de représentants vivants et que nous ne connaissons qu'à l'état de fossiles. De même que nous voyons çà et là sur l'arbre une branche mince égarée qui a surgi de quelques bifurcations inférieures et qui, par suite d'heureuses circonstances, est encore vivante et atteint le sommet de l'arbre, de même, nous rencontrons accidentellement quelque animal comme l'ornithorynque ou le lépidosirène qui, par ses affinités, rattache sous quelque rapport deux grands embranchements de l'organisation et qui doit probablement à une situation isolée d'avoir échappé à une concurrence fatale. De même que les bourgeons produisent de nouveaux bourgeons et que ceux-ci, s'ils sont vigoureux, forment des branches qui éliminent de tous côtés les branches plus faibles, de même, je crois que la génération en a agi de la même façon pour le grand arbre de la vie, dont les branches mortes et brisées sont enfouies dans les couches de l'écorce terrestre, pendant que ces magnifiques ramifications toujours vivantes et sans cesse renouvelées en couvrent la surface.